10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde ne suffit pas, la désormais célèbre émission de géopolitique de Transistor. Antoine, Thibault et moi-même sommes ravis de vous retrouver en ce jour spécial s'il en est, puisque Transistor fête aujourd'hui son premier anniversaire.
Et même si LMNSP est encore loin d'avoir atteint l'âge vénérable de notre radio, nous nous devions de marquer le coup. Aujourd'hui, Rémi et moi vous proposerons donc une revue de presse spéciale anniversaire, et puis ensuite nous ouvrirons notre grand dossier de la semaine, consacré cette fois-ci au Brésil, Antoine.
Et oui, la 8e puissance mondiale a élu le mois dernier sa nouvelle présidente, Dilma Rousseff. L'occasion de faire ici le bilan de la présidence de Lula, le très charismatique prédécesseur de Dilma Rousseff, et d'explorer plus en profondeur la société et le modèle politique de cette jeune puissance.
Et pour aborder ces questions, Antoine et Thibault, vous recevrez aujourd'hui deux véritables Brésiliens, Fernanda, lectrice à l'ENS, et João, étudiant à l'école en Master 2 de littérature.
Mais avant, et sans plus attendre, ouvrons les cadeaux de cette revue de presse spécial anniversaire.
Et pour commencer, Rémi, une lecture ultra-libérale de Thanksgiving.
Eh oui, Thibaut, à première vue, quoi de plus rassembleur, quoi de plus consensuel que la fête de Thanksgiving, que les Américains ont fêtée jeudi dernier, le 25 novembre. Cette fête, qui est célébrée tous les 3e jeudi de novembre aux États-Unis, commémore un moment fondateur, ou du moins hautement symbolique, de l'histoire américaine. Pour comprendre sa signification, il faut remonter jusqu'au XVIIe siècle, en 1620 exactement, lorsque les pères pèlerins, partis d'Angleterre sur le Mayflower, débarquent dans la baie de Plymouth, dans l'état actuel du Massachusetts, pour y fonder une colonie. Les premiers mois de cette colonie furent vraiment difficiles. Les colons eurent bien du mal à cultiver la terre pour en tirer leur subsistance, et quelques-uns d'entre eux succombèrent au scorbut. Et le salut, finalement, leur vint d'une tribu d'Indiens, les Wampanoag, qui leur enseignèrent leur technique de culture du maïs. La première récolte, en 1621, fut abondante, et la colonie était sauvée de la famine. Pour fêter cette récolte salvatrice, le gouverneur de la colonie, William Bradford, ordonna 3 jours d'action de grâce, d'où le nom de Thanksgiving qui est resté. Et il invita le chef Wampanoag et 90 de ses hommes à partager leur repas. C'est cette action de grâce que les Américains commémorent tous les ans à Thanksgiving, en mettant normalement de côté leurs désaccords pour célébrer cet héritage commun.
Alors Rémi, tu viens de dire « normalement ». Est-ce que ça veut dire que Thanksgiving ne rassemble plus, comme avant, la nation américaine ?
Si, Thibault, la fête n'a rien perdu de son importance pour le peuple américain. Mais il y a, comme qui dirait, de petites divergences dans la sphère politique quant à son interprétation. Dans son édition du 20 novembre dernier, le New York Times rend compte d'une lecture pour le moins surprenante de Thanksgiving. Pour les conservateurs américains du Tea Party, ce qu'il faut retenir de Thanksgiving, c'est avant tout une défaite mémorable du socialisme. Si la colonie fondée par les pères pèlerins a rapidement connu la pénurie, c'est qu'elle a d'abord été organisée selon une logique socialiste. Les colons n'étaient pas propriétaires de leurs terres et ils devaient mettre en commun le produit de leur récolte. D'où, selon les tenants de cette théorie, une faible pression à l'intensification et à l'innovation, entraînant la faillite de tout le système. Et ce n'est pas avec l'aide des Indiens, parce qu'il manquerait plus que ça quand même, que la colonie est sortie de la crise, mais grâce à une réforme décidée par Bradford en 1623. À cette date, l'organisation de la colonie change, chaque colon se voit attribuer une parcelle de terre à mettre en valeur. Dès lors, les colons auraient cultivé leurs terres avec bien plus d'ardeur qu'auparavant et auraient développé des techniques culturales innovantes pour se sortir de la pénurie et même dégager des surplus. En un mot, on l'aura compris, l'Amérique aura tout de suite su discerner les travers du socialisme, et ce 2 siècles quand même avant la naissance de Marx.
Mais alors sur quoi se fondent les conservateurs pour défendre cette théorie? Est-ce que l'organisation communiste, la réforme de 1623, est-ce qu'ils auraient tout inventé?
Non. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui peut donner une apparence de vérité à leur affirmation. Les faits dont ils parlent sont réels, historiquement avérés. Il y a bien eu, en 1623, passage d'une organisation communautaire à la propriété privée de la terre. Mais là où le bât blesse, c'est bien dans l'interprétation que livre le Tea Party de ces faits historiques. Dans le New York Times, un historien spécialiste de la question, Richard Pickering, explique que cette organisation communautaire des premiers jours ne saurait être assimilée à du socialisme, dans la mesure où elle était d'emblée conçue comme temporaire. Selon lui, le but ultime de ce système était de dégager des profits. Et cette organisation du travail n'a pas été aussi désastreuse que l'affirment les conservateurs, sans quoi le gouverneur Bradford n'aurait pas ordonné cette action de grâce, qui est, elle aussi, historiquement avérée. Le problème réside donc bien dans l'interprétation des faits, Sa solution n'est pas à chercher dans les archives, mais dans le débat politique actuel. Tout anniversaire, toute commémoration revêt donc bien un sens caché et très contemporain, au-delà de la vérité historique réaffirmée. À nous d'être assez perspicaces pour le déceler.
Eh bien, merci Rémi. Donc après Thanksgiving, nous filons à Haïti, Thibaut.
Eh oui Antoine, il est de tristes anniversaires qu'on aimerait ne pas souhaiter, ou au moins ne pas souhaiter trop tôt, trop longtemps. Comme en Haïti. L'île refait parler d'elle 10 mois seulement après le violent séisme qui l'a ravagée en janvier dernier, là où on pensait pouvoir attendre les traditionnels titres « Haïti un an après » qui sont monnaie courante. Alors la tenue d'élections présidentielles avec 18 candidats en lice est bien sûr pour quelque chose. Mais c'est surtout la déplorable situation sanitaire qui alarme les médias. France Inter, Le Monde, pour ne citer que deux d'entre eux, ont ainsi publié articles et reportages sur cette grave question.
Et justement, Thibault, on a eu tendance à ne plus s'intéresser à Haïti depuis le séisme de janvier. Or, les catastrophes se sont enchaînées de manière tragique, surtout ces dernières semaines.
Effectivement. D'abord, rappelons que le séisme, événement majeur, a entraîné la mort de 220 000 Haïtiens, sans compter les 2,5 millions de sinistrés qui vivent sous des tentes et des abris de fortune. S'ajoute à cela un cyclone, Thomas, qui s'est abattu le 6 novembre dernier, et enfin une importante épidémie de choléra, sévit depuis un peu plus d'un mois, qui a déjà provoqué la mort de plus de 1400 personnes. Et les prévisions sont extrêmement pessimistes, puisqu'elles envisagent plusieurs centaines de milliers de nouveaux cas dans les prochains mois.
Et la situation est d'autant plus problématique que la cause de cette épidémie pourrait bien être liée à ceux qui sont venus aider le pays.
Et oui, l'épidémie est née dans la ville de Mirbelet, à 1h30 au nord de Port-au-Prince. Et là, on y trouve une base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, occupée par des soldats népalais. Or, selon le maire de la ville de Mirbelet, le contenu des latrines du camp se serait déversé dans les cours d'eau. Les excréments de porteurs sains d'un bacille d'Asie du Sud auraient ainsi contaminé les populations des rives des divers affluents. Et la thèse est d'autant plus plausible que les plus grands foyers d'infection se trouvent précisément sur les bords du fleuve et des rivières proches. Alors l'administration du camp, les compagnies chargées de l'entretien se renvoient les responsabilités et les accusations fusent en tous sens bien évidemment. Toujours est-il que le drame sanitaire est là, renforcé par les conditions difficiles résultant de la pauvreté du pays et des catastrophes qu'il a dû affronter.
Et d'où sans doute l'importance cruciale des élections à venir.
Oui, parce que jusqu'ici, l'État haïtien s'est trouvé débordé par la situation, tandis que les ONG se démenaient. Les radios et autres médias ont spontanément diffusé des messages pour inviter les gens à plus de précautions et éviter l'infection, mais il n'y a jamais eu de véritable coordination. Ainsi, le prochain président et son gouvernement auront pour dure mission de reconstruire le pays, mais avant tout de faire leur maximum en matière de prévention pour que les habitants changent leurs habitudes et s'exposent moins au risque d'infection. Et sans mauvais jeu de mots, c'est loin d'être un cadeau.
Merci Thibault.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
LMNSP s'intéresse donc au Brésil cette semaine, peu après l'élection de la dauphine de Luiz Inácio Lula da Silva, évidemment plus connue sous le diminutif de Lula, qui veut dire poulpe en portugais. Pour évoquer le Brésil, ce nouveau géant, ainsi que le qualifie un récent hors-série du Monde, nous recevons deux étudiants brésiliens qui passent leur année à l'ENS, Fernanda et João. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, dites-nous rapidement d'où vous venez au Brésil.
Nous venons de la même ville, São Carlos. C'est une ville à la campagne. Elle est une ville universitaire très connue au Brésil et à 3 heures de São Paulo.
D'accord. Eh bien, donc pour commencer, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière au moment des élections. Écoutez ce reportage diffusé sur BFM TV le 1er novembre dernier.
Victoria.
La victoire revient mathématiquement à la candidate Dilma Rousseff.
L'euphorie au siège du comité de campagne de Dilma Rousseff et dans les rues des scènes de liesse. L'élection hier soir à une large majorité de Dilma Rousseff n'était pas une surprise, mais pour tous les Brésiliens, c'est un événement historique. La protégée de Lula, à la réputation de dame de fer, a promis hier soir d'honorer l'héritage du très populaire président sortant. Elle s'est engagée à éradiquer la pauvreté du pays, mais aussi à améliorer le statut des femmes.
Donc en octobre, se sont tenues au Brésil des élections présidentielles qui ont vu la victoire d'une femme, ce qui est une première dans l'histoire du pays. Après deux mandats, Lula a en effet choisi Dilma Rousseff pour prendre sa suite et les électeurs ont massivement validé ce choix. La candidate du Parti des Travailleurs a ainsi largement devancé son challenger, le social-démocrate José Serra, qui était pourtant donné favori au début de l'année 2010. Donc Fernanda et João, donc vous n'avez pas pu voter pour ces dernières élections, mais ma première question est très simple et très directe. Est-ce que vous auriez voté Pour Dilma Rousseff.
Non.
Non.
Et pourquoi donc?
Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, qu'elle a été surtout quelqu'un qui a été choisi par Lula. Je crois que c'était élection, une réélection de Lula. C'est son troisième mandat et je trouve que c'est pas vraiment elle qui a gagné les élections, mais c'est surtout lui que derrière elle qui l'a fait gagner.
Donc les Brésiliens ont plébiscité Lula plutôt que Dilma Rousseff.
Je dirais ça parce que c'est quelqu'un de quand même inconnu. C'est José Serra, c'était quelqu'un qui avait déjà été le gouverneur de l'État de São Paulo, le maire de la ville de São Paulo, ministre de la Santé au Brésil. C'était quelqu'un plus connu qu'elle et, selon moi, aussi quelqu'un de plus prêt pour être président.
Alors c'est vrai qu'il s'agit sans doute plus d'une gestionnaire que d'un véritable leader. On ne la connaît pas très bien, mais son parcours mérite quand même d'être souligné. Dès le coup d'état militaire de 1964, elle milite et est un membre actif de la guérilla, ce qui l'a conduit en prison de 1970 à 1972. Elle est torturée, mais ne livre aucune information. Et en 2005, après plusieurs postes ministériels dont tu viens de parler, Joao, elle est nommée chef de la maison civile, c'est-à-dire l'équivalent de notre premier ministre. Et par ailleurs, on dit qu'elle maîtrise souvent très bien les dossiers dont elle a la charge. Alors que pensent les Brésiliens de Dilma Rousseff? Quelle est son image? Il y a quand même une image malgré le fait qu'elle soit écrasée par Lula.
Dilma Rousseff n'est pas du tout connue au Brésil avant les élections. Si on parlait sur elle, les gens disaient « mais je ne la connais pas, je vais voter dans la candidate de Lula ». Ils ne savaient même pas que c'était Dilma. Les gens ne connaissent pas Dilma Rousseff, elle n'a jamais parlé au peuple du Brésil, elle ne s'est fait pas connaître. Avant, je crois, 2 mois avant les élections. C'était toujours Lula avant elle. Donc, elle disait « Votez dans ma candidate pour que le Brésil continue à être ce qu'il est maintenant avec moi. » Donc, Dilma n'est pas du tout connue du peuple brésilien.
Et justement, donc quand on voit qu'en fait, on a plutôt l'impression que c'est une réélection, d'après ce que vous dites, de Lula, plutôt que l'élection de Dilma, quel rôle peut jouer Lula vis-à-vis Dilma Rousseff dans les années à venir? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de couple Lula-Dilma comme un couple Medvedev-Poutine?
C'est une bonne question et c'est aussi une question pour nous. On ne sait pas très bien comment la répondre. Une réponse personnelle, ça, je dirais oui, que Lula il ira quand même continuer à jouer un rôle majeur au Brésil. Il continuera à être pas vraiment le président, mais il sera quand même quelqu'un d'important. Il sera toujours là pour dire à Dilma ce qu'elle doit faire. Les journaux au Brésil se posaient aussi cette question de se demander qui sera vraiment le président. Est-ce que Lula va continuer à gouverner ou ça sera Dilma Rousseff qui prendra le pouvoir?
On a vu déjà les premiers mouvements, c'était là pour choisir le ministère des affaires économiques. Là, ceux que Dilma avait choisis n'ont été pas pris. C'était ceux que Lula a indiqué. Donc, les gens de l'opposition commencent déjà à demander.
Ah, d'accord.
Quel poste occupe aujourd'hui officiellement Lula maintenant que Dilma Rousseff est élue présidente? Est-ce qu'il a un rôle déterminé?
Non, ex-président, pas vraiment. Il n'a pas, il ne sera pas ministre, il ne sera pas... Non, non, il est juste l'ex-président, il n'a pas un rôle déterminé.
Et comment se fait-il dans ce cas qu'il soit très présent aux côtés de la présidente, même jusqu'à l'accompagner au sommet du G20?
Je crois que Lula est très attaché au pouvoir. Et dans ses premiers mois, je crois, du gouvernement de Dilma, je crois qu'il veut être à côté d'elle pour donner un peu plus de sûreté au peuple, pour dire « oui, c'est bien ça que vous avez voulu, que ma politique continue dans la figure de Dilma ». Donc je crois que c'est pour assurer le peuple que son gouvernement va continuer dans la figure de Dilma.
Très bien, donc on a l'impression donc, que Lula reste omniprésent, donc c'est bien de lui qu'il faut parler. Nous aborderons dans quelques minutes son bilan social, mais d'abord nous voudrions évoquer la situation économique générale du pays qui a été capable de consentir à un prêt de 14 milliards de dollars au FMI en avril 2009, c'est-à-dire en pleine crise. Est-ce qu'on peut dire que le pays a su surmonter la crise financière mondiale? Est-ce qu'on peut mettre cela au crédit de Lula?
auprès de Lula et aussi de la politique économique de son prédécesseur, Fernando Henrique Cardoso. Si ce n'était pas le plan réel et aussi sa politique de bourse-famille pour donner le pouvoir d'achat aux pauvres, je crois que le Brésil ne pourrait pas surmonter cette crise. C'était grâce donc à Fernando Henrique, mais aussi à la politique d'expansion de la bourse famille de Lula.
On a un ancien président qui n'était pas du même bord que Lula, il faut le préciser. En deux mots, le Brésil vit sous un régime militaire de 1964 à 1985. Lula est battu au présidentiel de 89, 94 et 98. Et à ce moment-là, ce sont des présidents plutôt de droite, dont le dernier Carrosso, qui ont donc gouverné le pays. Et donc c'est à ces présidents-là que vous faites remonter la bonne santé économique du Brésil.
Tout à fait. Oui, oui, il a été le responsable pour les plans réels, le plan réel de la...
En deux mots, le plan réel, en quoi ça consistait ?
Changer la monnaie, une monnaie qui a parité avec le dollar, pour essayer d'empêcher d'avoir l'inflation sur le pays, pour essayer de développer aussi l'économie interne.
Aussi changer les systèmes de, comment je vous explique ça, de cambio,
de change.
Ouais. Une parité entre les dollars et les reals, ça c'était fondamental pour pouvoir...
Ouais, qui a permis en fait un développement des échanges internationaux, notamment des exportations et des importations pour le Brésil.
Ouais.
Donc en fait, si je comprends bien ce que vous nous dites, Lula aurait donc profité d'une conjoncture favorable grâce au travail de son prédécesseur.
Oui, il a toujours critiqué ce qu'il a fait Fernando Henrique. Il a été le premier à ne pas vouloir mettre le real à commencer avec ça. Et après, c'est vrai qu'il a bien profité de ça, il a sous-profité de ça, il a continué ce qu'a fait Fernando Henrique. C'est grâce à ça que l'économie a continué à bien marcher au Brésil.
N'oublions pas toutefois un problème latent auquel le pays est accoutumé depuis bien longtemps, c'est un maintien de la dette externe qui a atteint fin 2009 280 milliards de dollars et une dette interne de 1000 milliards de dollars fin 2009, soit 56% du PIB. Donc effectivement, comme vous le dites, Lula n'aurait pas réglé le problème hérité de ses prédécesseurs. Est-ce que vous considérez que la santé économique du pays, avec ou sans Lula, peu importe, est plutôt bonne ?
Oui, je dirais plutôt bonne. Ouais.
Par exemple, on cite souvent des chiffres. Apparemment, on prévoit une croissance de 7%. Donc oui, les indicateurs semblent au vert. Est-ce que c'est l'opinion que les Brésiliens ont ?
Oui, je crois qu'on a une bonne relation avec notre économie. On est de plus en plus satisfait avec l'importation et l'exportation aussi. Je crois que ça commence à être réglé.
D'accord, et bien après ce bilan économique, passons au bilan social qui figure souvent en tête de la liste des arguments en faveur de Lula.
Oui, l'une des mesures emblématiques est la mise en place de la Bolsa Família, même si vous avez l'air de dire que ça remonte aussi à son prédécesseur. Et c'est une allocation qui concerne les familles vivant sous le seuil de pauvreté, soit 12,5 millions de foyers environ. Et depuis Lula, on cite souvent ce chiffre, ce serait une vingtaine de millions de personnes qui auraient accédé à la classe moyenne. Est-ce que vous pouvez témoigner de ce progrès social ? Est-ce que, en tant que Brésilien, c'est quelque chose que l'on sent au quotidien ?
C'est difficile de classer et de dire qu'est-ce que c'est faire partie de la classe moyenne au Brésil. Parce qu'on ne peut pas seulement dire que si on gagne 50 reais par mois, on fait déjà partie de la classe moyenne. Si il y a le gouvernement qui nous aide un petit peu avec 15-20 reais pour chaque enfant qu'on envoie à l'école, qu'on fait suivre ses cours à l'école, ce n'est pas tout à fait vrai que ça va beaucoup changer la vie et la condition financière de cette famille. Mais oui, je crois que c'est quand même, on ressent, ça c'est frappant quand même, la différence, ça commence à augmenter, ça commence à améliorer la condition économique des gens. Je crois que c'est plutôt positif.
Est-ce que ça se voit, par exemple, avec plus d'équipements, des achats différents qui ne sont plus uniquement alimentaires, comment ça se... Comment ça se passe?
Oui, de plus en plus, je crois que les gens sont... Les produits électroménagers de la maison sont plus à portée des mains des gens. Et donc, la cuisine donc, est beaucoup plus mobilier. Ils ont des frigos, des fours. Tout ça a beaucoup changé. Déjà, pour conserver la nourriture, ils ont dans la cuisine beaucoup de choses. Mais même des choses plus superflues, comme un portable. Presque tout le monde en a un.
Avec un système de paiement original, qui est la possibilité de payer en plein de fois, d'étaler le paiement sur plusieurs mois.
Oui, c'est une différence entre le Brésil et la France, par exemple, qu'on a remarqué. Qu'on peut payer plusieurs fois, 10 fois, par exemple. Si on ne peut pas payer tout de suite, on n'a pas l'argent sur nous, c'est vrai qu'on peut... faire un...
Et sur une gamme de produits extrêmement large.
Oui.
D'un chaussure jusqu'à d'un pantalon jusqu'à une voiture. Mais... Et même les voitures. De plus en plus, il y a une voiture pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Ils ont aussi une voiture.
D'accord. Donc, si je comprends bien, Lula suit quand même les traces de Cardoso. Mais on constate quand même une vraie amélioration... Dans la société. Le fait que Lula suive un peu les traces de Cardoso pose un peu le problème de Lula sur l'échiquier politique. Donc, il a d'abord commencé dans le syndicalisme. Il a été battu aux présidentielles de 89, 94 et 98, mais il a beaucoup évolué. Il est président du Parti des Travailleurs dès sa création en 1980. Et il en modifie le fonctionnement et l'allure. Le mouvement conserve sa dimension sociale, mais il tend à se couper des classes populaires et ouvre grand la porte au cadre. De nombreux observateurs y voient une modération des opinions politiques. Alors dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que le Lula qui a été au pouvoir est toujours un Lula de gauche?
Je ne crois pas.
Pas du tout.
Il a dû quand même changer son discours, il a dû quand même changer son image. J'y crois pour pouvoir accéder au pouvoir. J'y crois pas que ça soit vraiment une figure de gauche, mais quand même, il essaye de garder... cette image d'avoir une bonne relation avec les hommes, on dirait, des gauches de l'Amérique latine. Mais je crois que de plus en plus, c'est difficile de classer les hommes politiques brésiliens comme des droites, des gauches. Il y a quand même... ils vont plutôt au centre, je crois. À chaque fois, c'est plus difficile de les classer.
Donc Lula serait populaire uniquement grâce à son image et pas du tout grâce à une idéologie, une vision ou un programme politique.
Lula, il faut qu'on dise ça, il a dû signer un document lors de son élection en disant qu'il se compromettait avec ce qu'avait fait son prédécesseur, Fernando Henrique, qu'il allait continuer les programmes économiques, les choses qui marchaient avant, qu'il ne voulait pas tout changer. Du coup, ça montre bien... qu'on avait d'un changement complet et ça montre aussi qu'il a bien changé ses opinions aussi.
Peut-être donc pour mettre en place une machine capable de garder le pouvoir. Et justement, la droite, qui est donc maintenant un parti d'opposition, est-elle encore très présente dans la vie politique? Est-ce qu'elle a les moyens de lutter contre le monstre Lula, si j'ose dire?
Il n'a pas d'opposition, il n'a pas de droite, il n'a pas de gauche, il n'a pas de parti politique non plus. Au Brésil, c'est seulement un jeu d'intérêt. Les gens changent tout le temps de parti selon leur intérêt. Il n'a pas une position à être maintenu, quelqu'un qui va dire quelque chose contre le gouvernement. Lula a passé 8 ans sans avoir opposition. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Il avait des scandales de corruption, personne n'a levé la voix, personne n'a voulu l'impeachment de son gouvernement. Donc, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord avec lui.
Il y avait quand même une popularité de José Serra au début de l'année 2010.
Ce n'était pas une popularité de José Serra, c'est parce que les gens ne connaissaient pas encore Dilma. Et Lula a remarqué ça. Donc, Lula a fait beaucoup de délits électoraux. Il a pris donc la machine publique pour faire connaître Dilma Rousseff. Il a commencé à inaugurer des œuvres publiques, il est allé dans l'atelier pour faire connaître sa candidate.
Il a profité de son pouvoir comme président de la République et ça, c'est un crime. Il ne peut pas faire ça.
C'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution?
Oui,
par exemple?
Oui.
D'accord.
Il a reçu beaucoup d'amendes à cause de ça.
Ah d'accord, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément ici. Et justement, c'est le bilan de Lula est un bilan aussi diplomatique. Le Brésil de Lula n'a eu de cesse de vouloir se faire une place sur la scène internationale, candidat acharné à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Le Brésil de Lula a créé énormément d'ambassades à travers le monde, surtout parmi les pays émergents au Moyen-Orient, en Afrique beaucoup et en Asie, mais aussi de manière plus surprenante à Cuba et même en Corée du Nord. Cette politique d'ouverture diplomatique aux pays émergents, est-ce qu'elle ne correspondrait pas finalement à l'ambition de Lula de se poser un peu en leader des pays émergents face à l'impérialisme américain et la montée de la Chine?
On pourrait dire ça. La diplomatie Lula, c'était quand même quelque chose de catastrophique parce que Lula a assuré que les présidents iraniens, par exemple, ne voulaient pas avoir une bombe atomique. Ça, c'est une chose que même un enfant ne peut pas dire, non? On peut imaginer si un président de la République peut dire une chose comme ça.
Lula a même reçu un Mahmoud Ahmadinejad en mai 2010. Voilà. Ahmadinejad est venu au Brésil.
Et il est parti en Iran, Lula aussi, également. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, oui, je crois qu'il a voulu quand même montrer son pouvoir. Il a voulu prendre une décision d'être un leader des pays émergents. Ça, on peut quand même dire ça. Quand on regarde l'énorme quantité d'ambassades que le Brésil a ouvert dans les pays émergents, en Afrique surtout. Et oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, à Cuba, à Corée du Nord. Quand Lula est allé en Cuba aussi, il n'a rien dit sur les droits humains. C'est quelque chose aussi de bizarre.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Brésil, maintenant, est sur la scène internationale associé à l'image de Lula? On peut prendre le cas français avec Ségolène Royal qui se réclame souvent de ce modèle de démocratie participative, d'une gauche puissante au pouvoir. Lula, Brésil... sont attachés maintenant.
Oui, je crois.
Et Lula, comme la figure de combat à la pauvreté, combat à la faim, je crois surtout les postes en Afrique, c'était pour montrer à ces pays qu'il serait donc une figure essentielle pour essayer de changer les problèmes de l'Afrique, aider à trouver des solutions.
Et Lula est lié surtout à une image positive. C'est ça, la plupart des gens ici, ils me disaient « Oui, tu es brésilien et... » On connaît, Lula, c'est quelqu'un de bien, il a bien gouverné le Brésil, c'est un bon président.
Pas si sûr.
Ouais, pas si sûr.
C'est d'ailleurs intéressant de vous écouter parce que, effectivement, il y a une image dans la presse internationale qui est plutôt positive de Lula. Et quand on vous entend, on sent qu'il y a une sorte de décalage entre cette image et la réalité. Donc, est-ce qu'il existerait un mythe, Lula? Et comment est-ce qu'il a pu se construire?
Je crois qu'il a essayé quand même de construire ça avec son propre histoire, son histoire de pauvreté, de quelqu'un qui a sorti d'un milieu pauvre. Il a réussi à être élu comme le président du Brésil.
Parce qu'il vient du nord.
Il vient de la région la plus pauvre du Brésil, c'est le nord-est. Il est venu à São Paulo pour travailler. Il est devenu leader syndical après. Après, il a fondé le Parti des Travailleurs. Et du coup, je crois que oui, il essaye surtout de fonder cette figure mythique sur son propre histoire, sur son histoire de quelqu'un qui était pauvre et il a réussi à... Mais je crois que les mythes, ils se fondent surtout sur un bon discours. Et le discours de Lula n'est pas du tout un bon discours. C'est un discours faible, d'abord. C'est un discours pas vraiment bien construit.
Plein de clichés, toujours avec l'emploi, les mots du peuple. C'est pour cela qu'il parle toujours de football, il parle toujours de nourriture pour faire des comparaisons, donc très...
Je crois qu'il a réussi à avoir cette image d'un bon orateur parce que son public était faible, pas parce que son discours était bon.
Oui, parce que vous qui venez... on va dire d'une classe plutôt aisée, favorisée au Brésil, vous êtes dans un milieu qui globalement ne soutient pas Lula.
Non
et oui, les deux. Quand même, il y a une grosse partie des universitaires, des étudiants universitaires brésiliens qui sont pour Lula, mais ils ne lisent pas les journaux. C'est dommage, non. Ils n'ont pas d'informations pour dire ce qu'ils disent. Ils veulent se montrer un peu intellectualisés et c'est bien d'être pour...
Être de gauche, c'est être intellectuel. Donc, je crois que la plupart des étudiants maintenant choisissent Lula à cause de ça. Et beaucoup des professeurs aussi font pareil, mais parce qu'ils ont construit les partis aussi. Donc, ils ne veulent pas nier son discours précédent.
Alors on va laisser Lula de côté pour quelques instants et revenir à une autre actualité, non pas politique mais sociale, puisque le Brésil se fait connaître en ce moment à l'international par des affrontements à Rio de Janeiro entre policiers et narcotrafiquants. Ils auraient fait plus de 30 morts selon les dernières informations dont nous disposons. Avec 47 000 homicides par an et un taux d'élucidation dérisoire, l'insécurité est aujourd'hui en tête des préoccupations des Brésiliens. Alors en tant que Brésilien, Fernanda, João, percevez-vous cette insécurité?
C'est difficile de parler sur ça parce que comme on vient d'une petite ville, c'est quand même loin de Rio de Janeiro, on ressent pas vraiment, c'est comme si on était ici et on entendait dire qu'il y a une guerre à Rio de Janeiro, qu'il y a des problèmes d'insécurité. Pour nous, oui, c'est vrai, on regarde la télé, on lit ça aux journaux, c'est frappant quand même. On entend beaucoup ça, mais c'est un peu loin de chez nous, ça, c'est...
Est-ce qu'on en a beaucoup parlé pendant les élections présidentielles?
De la sécurité et aussi de salaire des policiers. Ils croient que c'est la grande faute, c'est les salaires des policiers. Ils sont toujours corrompus par les narcotrafiquants. Je crois que tout le monde a peur. Je crois que les Brésils, on garde toujours peur au moment de sortir de la maison. Tout le monde est en garde. Toujours, on attend que quelque chose va arriver. On est jamais tranquille.
Il faut toujours faire attention, savoir où tu es, savoir... On a toujours nos parents qui nous appellent, hein, ça va, tu es où, tu es sorti, tu vas rentrer à quelle heure. C'est vrai qu'ici, on ressent que vous êtes beaucoup plus tranquille, il n'y a pas de problèmes de ces genres de problèmes de sécurité.
Et la question sécuritaire est plutôt... est développé par Lula et le Parti des Travailleurs ou c'est plus le fait d'autres tendances politiques?
Tous les partis politiques en parlent parce que c'est vraiment une question maintenant fondamentale. Il y a un pouvoir parallèle au Rio de Janeiro, qui c'est pas seulement au Rio de Janeiro. Si on parle avec les gens du Venezuela, Colombie, Bolivie, les types de crimes, d'actions criminelles sont toujours la même. Les narcotrafics donc est partout en Amérique latine. La façon de kidnapper ou de faire de attaque, c'est toujours les mêmes.
Oui, c'est d'ailleurs récemment, le directeur général de la police fédérale brésilienne a cofondé un institut régional, Ameripol, une sorte de forum des polices des Amériques pour tenter de régler le problème à l'échelle régionale. Donc il y a la prise de conscience que le Brésil est un carrefour qui s'intègre aussi dans des logiques narcotrafic à l'échelle régionale. Donc si je comprends bien, la sécurité fait quand même partie et quand même un problème récurrent et qui est prise en charge par chaque parti. Il y a d'autres tendances peut-être qui se sont insérées dans la présidentielle, c'est peut-être le poids de l'Église, Thibault.
Oui, effectivement, on se souvient que pendant la campagne présidentielle, Dilma Rousseff a été accusée de vouloir légaliser l'avortement. C'est un autre des débats qui a eu pendant ces élections présidentielles. Et elle a dû s'engager par écrit à ne pas le faire. Alors, deux questions. Est-ce que c'est le résultat d'une influence religieuse forte, premièrement? Est-ce que aussi ça touche au fait que, quelque part, la société brésilienne est conservatrice?
Pour répondre à la première question, oui. Pour répondre à la deuxième, peut-être.
Bon, l'avortement, donc, c'était une question très attachée à l'Église. Bien sûr, le Brésil est un pays chrétien, très, très conservateur,
je dirais. Le plus grand pays catholique du monde.
Mmh. Oui, aussi.
155 millions de fidèles.
Il y a aussi la nouvelle Église, un peu de protestants, on appelle Église universelle, que c'était l'autre candidate, Marina Silva. Dans le moment où elle est sortie de la dispute électorale, il voulait prendre ses électeurs. Donc, il fallait parler des choses de l'Église. Et parmi ces sujets, il avait l'avortement.
Je voulais juste faire une petite remarque. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Il faut qu'on sache qu'on est dans un moment un peu au carrefour de ces tendances. Je crois que c'est quand même... ils montent, à chaque fois ils montent au pouvoir, ils ont plus de candidats, ils ont plus de députés, de sénateurs. Ces églises, c'est vrai que c'est un moment un peu particulier, je crois.
Donc le poids de la religion aurait tendance à se renforcer.
Oui, oui. Ouais.
D'accord.
Et alors un autre élément fondamental de la culture brésilienne, c'est là-dessus qu'on va terminer. Bah, Antoine, je te laisse poser la question.
Et oui, la question sans doute la plus importante de cette émission, est-ce que le Brésil va gagner la Coupe du Monde de 2014 qu'il va lui-même organiser?
Oui.
Oui, oui et oui. Il faut qu'on gagne parce que ça, c'est le plus important.
Donc ce serait la sixième fois. c'est ça ?
Ouais,
c'est
ouais, ouais, on va déjà finir.
Si la France ne tombe pas sur notre chemin, on
non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Bon, je pense
qu'on finira bientôt les doigts de la main. On a 5 déjà, on va commencer la deuxième main avec le 6e doigt.
C'est très important dans la culture brésilienne.
C'est très important, bien sûr.
Eh bien, écoutez, merci à tous les deux, Fernanda et Joao, pour vos analyses, pour ce précieux témoignage sur votre pays, où on a pu voir que Lula n'est pas forcément le héros et le mythe que l'on croit.
Merci aussi à nos deux intervieweurs hors pair, Thibaut et Antoine, ainsi qu'à François et Xavier en régie. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, chers auditeurs, prenez bien soin de vous et surtout n'attrapez pas froid.
Une nouvelle fois, bon anniversaire à la radio. Merci à vous qui l'écoutez et merci évidemment à tous ceux qui l'animent et la font vivre.
Et quoi qu'il advienne, nous espérons bien que jamais votre monde ne vous suffira.
Bon anniversaire.